Parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Madame Borrell, si vous voulez bien faire l'appel.
Abidi Nadia. Aoun Daniel. Blanc Michel. Il est
là ? Oui.
Body Bouquet Florine. Bonnet Michel. Brossard Gonfon Anne-Marie. Chérubini Hervé.
Présent.
Clapier Jean-Pierre. Présent. Colombet Gabriel. Présent. Dourdin Carole. Favergeon Yves. Gay Michel.
Présent.
Giovannetti Michel. Guénaud Jacques.
Présent.
Guignard Stéphane, représenté par Madame Ravez. Guillot Pierre.
Présent.
Ingoglia Angeline.
Présent.
Jodard Françoise.
Présent.
Lapère Pierre.
Présent.
Lobry Patricia.
Oui.
Marin Bernard.
Oui.
Marceau Jordan.
Présent.
Milan Henri, représenté par Madame Aoun. Montagu Claudia. Nègre Yves. Houlet Vincent. Pascal Martine.
Présente.
Perrault Rabès Gisèle. Plo Isabelle. Ponce Frédéric. Rebo Mireille.
Présente.
Vidal Fuentes Denise.
Oui.
Wild Mireille.
Merci. Comme d'habitude, on vous soumet l'approbation du compte rendu du conseil municipal de la séance précédente, séance du 13 décembre 2016. Est-ce qu'il y a des remarques concernant ce compte rendu ? Pas de remarques ? On peut l'approuver, enfin, on peut tout au moins le mettre aux voix. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Alors, comme lors de chaque séance du conseil municipal, on va passer les décisions. Oui.
Bonsoir, monsieur le maire, et bonsoir à tout le monde. J'ai remarqué là tout à l'heure que certaines personnes durant l'appel mettaient le micro et j'en suis ravie parce qu'en fait, quand on fait le compte rendu, on ne sait jamais si vraiment la personne elle était là ou pas. Donc je trouve que c'est une bonne solution que de mettre le micro pour annoncer présent. Voilà, c'est tout. C'était un simple petit détail, mais je trouve que c'est important quand on va relire tous les documents et tout, de savoir qui vraiment était présent. Alors, bien sûr qu'après, on nous dit qui avait procuration, qui était absent, enfin bon. Mais je trouve que ça serait bien. Il y en a qui l'ont fait ce soir et je suis pour. Voilà.
Très bien. Enfin, il y a un certain nombre, enfin, il y a beaucoup d'élus présents ce soir. Hein, donc. Très bien. Alors, concernant les décisions, il y en a 21. La première, la 2016-159, il s'agit d'une décision dont le but, c'est un MAPA, un marché à procédure adaptée, pour retenir la maîtrise d'œuvre de la chaufferie collective. C'est un projet dont on a déjà parlé. Voilà. La suivante, la 160. Donc là, il y a une première décision, la 160, pour un marché déclaré sans suite. Et on verra une deuxième décision, la 167, c'est pour l'attribution du lot. Voilà, c'est le lot numéro 5. Travaux de plomberie à l'ancienne école de la Libération.
C'est oui, encore moi, excusez-moi. On peut savoir pourquoi ça ne s'est pas fait avec l'entreprise qui avait été nommée au départ, s'il vous plaît.
Je crois que c'est dans la décision informant la commune de son incapacité à assurer les prestations en raison de la fermeture du centre de travaux
oui,
d'orage.
Oui, mais on n'a pas compris ce que ça veut dire. Excusez-nous, mais...
Allez, monsieur Oulé.
Si vous voulez, la société qu'on avait pris a fermé, et c'est un de ses ouvriers qui est en train de rouvrir sa boîte, et donc c'est lui qui va continuer le chantier.
D'accord, parce qu'on n'avait pas compris la référence à Orange, les travaux... bon, on n'avait pas compris.
La fermeture du centre de travaux.
Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Merci.
Alors, la suivante, la 161, mission de coordination de sécurité et protection de la santé pour le chantier et aménagement de l'avenue Charles Moron. Donc, vous le savez, en novembre-décembre, on a refait les canalisations et de janvier à avril, donc ce sont les travaux de voirie sur cette avenue. Voilà. Ensuite, la 162, mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avenue Théodore Banel, réfection du parking collège, sécurisation de l'accès, création d'une zone de stationnement de bus. Donc ce sont les travaux d'ingénierie avec la société RX Ingénierie. Voilà. La 163, renouvellement du contrat de maintenance du pro-logiciel municipal. Donc c'est le logiciel qui sert à l'enregistrement des mains courantes, à l'édition des rapports et des PV de la police municipale, ainsi qu'aux, hélas, aux vacations funéraires. Voilà. La 164, c'est une erreur d'imputation. Donc, au lieu de mettre chapitre 20, on a mis chapitre 21 et ligne 21-162, c'est la ligne 20-31. Voilà. Donc, c'est rectifié. Il n'y a pas d'incidence financière, évidemment. La suivante, la 165, ce sont des émoluments pour le cabinet d'avocats Buravan des maîtres Giguet Faupin. Donc, c'est une affaire qui opposait un particulier à la ville pour une occupation du domaine public qu'on avait refusé. Donc, la décision de la ville a été attaquée et nous avons gagné au tribunal. Donc, c'est une bonne chose. Parce que si on avait perdu là, je pense qu'on aurait 200 marchés ambulants dans les CRMI, quoi. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, j'ai le compte rendu. Si certains veulent le lire, il n'y a pas de problème. Alors, la décision 166, je crois que ça a été évoqué en commission en novembre 2016. Je me retourne vers Isabelle Plot. Ce sont un certain nombre de modifications pour le règlement d'attribution des places en crèche. C'est ça, Isabelle ? Très bien. Voilà pour cette décision. La 167, travaux complémentaires de réhabilitation de l'ancienne école de la Libération, attribution du lot numéro 5, c'est le lot dont on parlait tout à l'heure, hein, que M. Houlet a évoqué. Voilà. La 168, tarif des séjours mis en place par la Maison de la Jeunesse. Donc c'est une modification d'une décision précédente. En fait, il y avait une petite erreur. Le coefficient familial, pour quand il est plus de 1600, c'est pas 350 euros, c'est 300. Par contre, c'est 350, mais pour les extérieurs. Pour les extérieurs, on l'avait dit, hein, c'est prix coûtant, c'est tout à fait normal.
Oui, et... Monsieur Bonnet, je tenais à vous remercier parce que vous m'avez fait passer effectivement le nombre d'enfants par catégorie socio-professionnelle, comme je l'avais demandé au dernier conseil. Merci.
Monsieur le maire. Pardon. Donc, pour retenir qu'il y a 5 extérieurs sur les 35. Voilà. Oui.
Oui, pour revenir à la crèche, sur le tableau, il manque toujours 2 jours. Sur le.
Alors, Madame Plou, avec le micro. Voilà.
En fait, n'a pas été joint le. Ça a été rectifié. Celle qui est disponible au niveau du public, il y a bien les 2 jours de marqué.
Oui, mais sur les 2 tableaux, sur le tableau
oui,
comme ça aussi.
Oui, celui-ci, oui.
D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi le fait que les nouveaux dossiers, ils vont être payants?
Non, bon, ça, on ne l'a pas encore mentionné. On va le mentionner dans les courriers.
D'accord. Oui.
Alors, la suivante, la décision 2016-169, il s'agit de l'achat d'une création de sound painting dans le cadre de À tout cœur. Donc, c'est une création artistique qui réunit un certain nombre d'associations sérémoises, la Respelido, Cœur Aurélia, etc. Et la restitution de ce travail se fera le 21 juin, jour, et que vous le savez tous, c'est le jour de la fête de la musique. Voilà, vous avez donc les coûts des interventions et tous les détails. La suivante, la 2016-170, mission de coordination sécurité protection de la santé, mission SPS sur ce qu'on a vu tout à l'heure, réalisation d'une chaufferie biomasse et d'un réseau de chaleur. 1730 euros hors taxe. Celle d'après, la 171, il s'agit d'un changement de nom, c'est le transfert à une filière, donc il n'y a pas d'incidence financière. Bon, il était normal de reprendre une décision, mais bon, c'est vraiment de la pure forme. Alors, la première décision de 2017, donc la 2017-01, il s'agit des tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse. Donc, c'est une sortie jump indoor. Donc, il y avait 30 jeunes sauteurs donc, qui ont participé à cette sortie pour un tarif de 8 euros. La 2017-02... mise à disposition de locaux par le Collège Glanum à la Maison de la Jeunesse. Donc, comme vous pouvez le voir dans la décision, c'est 2h15 tous les mardis. En fait, les animateurs de la Maison de la Jeunesse vont au Collège pour parler des activités de la Maison de la Jeunesse, parce que bon, c'est quand même leur public cible. Voilà pour cette décision. La suivante, la 03, il s'agit de l'achat de spectacles vivants pour la saison 2016-2017. Donc, certains sont passés, d'autres sont à venir. Et comme toutes les années, vous aurez un bilan donc chiffré du nombre de spectateurs pour chaque spectacle. Mais bon, la saison n'est pas terminée, donc on vous donnera ça plus tard.
Parce que quand même, le total représente 26 000 euros quand même. Hein.
Oui, mais on est sur des coûts raisonnables, Madame Aoun. L'année dernière, combien on avait inscrit au budget, Monsieur Vallée? sur les pas pour le spectacle. Combien c'était? 70 000, non, je ne me rappelle plus. On est dans le cadre
Oui. Plutôt le montant des recettes en tête.
Ah, vous vous intéressez qu'aux recettes, vous, d'accord.
Combien?
Vous êtes un bon directeur. Il a dit qu'il s'intéressait qu'aux recettes. C'est un bon directeur des finances, d'accord.
On en rapporte hein, des recettes à l'Alpinium. Non, je peux juste vous donner une idée, si vous voulez, du nombre de spectateurs, sans parler financement, mais ça donne quand même une très très bonne idée. Il y a eu 12 spectacles depuis le début de la saison et nous avons compté 3360 entrées, ce qui fait une moyenne de 280 spectateurs par spectacle. Ce sera à nouveau une très très bonne année comme l'année dernière. Voilà, quant aux chiffres, on les donnera, comme disait monsieur le maire, à la fin de la saison.
Excusez-moi, j'ai pas.
On n'entend pas ?
Si, 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 mais c'est parce que je signais en même temps.
Je ne répéterai pas.
Non, alors 12 spectacles, on est d'accord.
Donc 12 spectacles, 3360 spectateurs, ce qui fait une moyenne de 280 spectateurs par spectacle.
Merci, là c'est parfait.
Ensuite, la 2017-04, installation d'une antenne Sigfox sur le toit de l'hôtel de ville. Donc, vous avez tout un détail technique, hein, donc je vous fais grâce. Bon, ça va servir à tout un tas de choses, relevé de compteurs, contrôle d'éclairage public, etc., etc. Ce qui me paraît important, c'est que cette antenne émet une puissance extrêmement faible lorsqu'elle fonctionne en émission. Donc, maximum 0,5 watts, soit un niveau inférieur à un téléphone portable ou du même ordre qu'une liaison Wi-Fi. Voilà, donc c'est sur le toit de la mairie, donc ça provoquera pas de problème particulier chez les agents municipaux, ce qui me paraît quand même important de le rappeler. Voilà, et la location, ça serait 1 600 € hors taxes par an, si tout ça se concrétise. Ensuite, la 2017-05, honoraire dû à M. Laurent Chalard, géographe consultant. Alors, pourquoi on va s'attacher les services de ce monsieur? Bien, tout simplement parce que ça fait 2 ans que le conflit, enfin tout au moins la divergence de vue avec l'INSEE dure. L'année dernière, on a écrit au sous-préfet, on a écrit au ministre de la Ville, on a écrit au ministre de l'Économie, qui à l'époque était M. Macron, on a écrit au directeur régional de l'INSEE. Bon, rien n'y a fait. Cette année, ça recommence. On continue à dire et à penser que... Ben, tous les indicateurs qu'on a vont pas dans le sens de l'INSEE, quoi, de la baisse de population. Et on pense que s'il y a cette distorsion entre l'impression qu'on a, nous, d'une stabilité ou peut-être d'une augmentation de la population, alors que l'INSEE nous dit que pour eux, il y a une baisse, eh bien ça, c'est dû à l'échantillonnage qui est pas le bon, parce qu'on continue à échantillonner en partie sur le centre-ville, alors que le centre-ville, aujourd'hui, il est plus représentatif de la population sérémoise. Donc, ce monsieur, monsieur Chalard, que Madame Borrell a eu au téléphone et elle complétera si vous le souhaitez. Ce monsieur Chalard a fait ça dans d'autres communes, c'est-à-dire qu'il est venu, il a fait tout un argumentaire qu'il a envoyé à l'INSEE, et l'INSEE, dans la plupart des cas, hein, je sais pas, dans 90% des cas, je pense pouvoir dire, eh bien, a pris en compte le travail de monsieur Chalard et a rétabli les chiffres. Donc on se dit que si ça a marché dans notre commune, ça pourrait peut-être marcher à Saint-Rémy. Donc tout ça, évidemment, a un coût, 2 400 € TTC, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, parce que la baisse des dotations l'année dernière liée à la diminution de la population, c'était 80 000 €. Donc si on investit 2 400 € et qu'on nous rétablit ne serait-ce que la moitié des 80 000 €, eh bien on aura fait une belle opération pour la ville.
Voilà. Excusez-nous, il fait un échantillonnage aussi, ce monsieur, ou comment il va procéder?
Alors, Madame Borrell, si vous voulez bien répondre sur le plan technique.
En fait, il va procéder en 2 temps. D'abord, il va réexaminer les chiffres officiels qui nous ont été transmis par l'INSEE et toutes les données démographiques, et il va analyser les incohérences entre les données démographiques et les données de l'INSEE. Et après, il va comparer les données de recensement avec d'autres données qu'on va lui communiquer, notamment l'évolution du nombre de logements, de constructions, de résidences principales et secondaires, de taxes d'habitation, etc. Et donc, ensuite, il va nous faire une proposition de contestation que nous transmettrons à l'INSEE, au vu des éléments qu'il aura pu analyser. Il était assez optimiste sur la possibilité d'obtenir gain de cause.
Donc, en fait, ce n'est qu'administratif. Il ne prend pas contact avec la population. Hein. C'est uniquement au niveau des documents que vous possédez.
C'est sur dossier.
D'accord.
Ça, je pense qu'il n'aurait pas le droit de le faire. Hein. C'est que les agents assermentés de l'INSEE qui ont le droit de faire les recensements. Bon, de toute façon, on vous tiendra au courant de tout ça.
Oui, parce qu'en fait, il est noté que l'étude sera réalisée dans un délai de 2 mois après la signature du marché. Mais on a un petit problème, c'est que vous ne l'avez pas signé, monsieur le maire.
Ah, mais il n'est pas signé dans le document que vous avez.
Ah, ben oui. Nous, on ne peut voir que les documents que vous nous donnez. Hein.
C'est parti à partir de quand?
En fait, le document, vous l'avez signé, on l'a renvoyé à M. Chalard qui vient de nous le renvoyer signé. Donc, la date de réception, c'est-à-dire.
Ça part d'aujourd'hui, quoi.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Donc, on considère que c'est à partir d'aujourd'hui, oui. C'est ça? Oui. D'accord. Merci.
Ben oui. Mais il est signé, en fait. C'est ce monsieur qui n'avait pas signé, mais moi, j'ai signé.
Oui, pardon. En fait, il n'y a pas eu le. Oui, les.
Ben, il n'y avait pas la date.
Comme lui a pas signé, effectivement.
Oui, c'est ça. Ça valait pas grand-chose dans la mesure où le monsieur n'avait pas signé. Oui. Il n'y avait pas la date. C'est ça.
Pour la date,
vous aviez signé.
Pour la date, on a échangé. On a échangé par mail, donc on a la date des mails.
D'accord.
Ça va. Merci.
Bon, donc on devra avoir ça février, mars, je sais pas, mi-avril, quoi, quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, la 2017-06, règlement intérieur de la salle petite enfance, c'est la salle donc, qu'on a inaugurée à Tonantoram. Donc là, vous avez le règlement intérieur. Ensuite, vous avez 2 autres décisions, la 07 et 08. Une sur l'occupation donc avec le RAM et l'autre sur l'occupation avec l'association Écoute et Partage. 2 structures que vous connaissez les uns et les autres. Voilà, donc on a formalisé les occupations de salle. Voilà, donc pour ces 21 décisions, alors il y en avait pas mal puisque ça portait sur 2 mois, hein, décembre et janvier. On passe maintenant à l'ordre du jour du conseil municipal. Première délibération, M. Houlet.
Il s'agit de renouveler le marché concernant l'élagage et la taille particulière et l'abattage de traitement d'armes sur voirie. Celui-ci a été attribué à la société Beaugarden, 6 Avignon, pour un montant minima de 10 000 euros et pour un maxi de 120 000 euros.
C'est très souple, hein, quand même. C'est très souple. Il y a une fourchette très large entre le seuil minimum et le seuil maximum.
C'est logique parce que on taille pas. Vous avez pu remarquer qu'on taille pas les platanes chaque année. On taille pas tous les endroits en même temps aussi. Donc ça nous laisse une marge. C'est certain. Il nous faut avoir cette marge pour pouvoir travailler correctement et au fur et à mesure faire les bonnes commandes quand on en a besoin.
D'accord. Merci.
Alors, qui est contre l'attribution de ce marché, élagage, taille particulière, abattage et traitement d'arbres sur voirie? Pas de contre? Abstention? Unanimité. Alors, c'est large aussi parce qu'on ne souhaite pas, mais si on a des intempéries, par exemple, avec un coup de vent extrêmement violent et beaucoup d'arbres qui tombent sur la chaussée, bon, malheureusement, on sera obligé de faire appel plus fortement à cette entreprise. Mais bon, on ne le souhaite pas, mais vu que c'est arrivé par ailleurs.
Et aussi, chancre sur les platanes.
Ah oui.
Ça, c'est tout à fait. Alors, décision suivante, on va rester dans les arbres. Monsieur Lapeyre.
Et bonsoir à tout le monde. Bon, travaux subventionnés d'amélioration de la forêt pour 2017. Dans le cadre des travaux de gestion et d'amélioration de la forêt, il est projeté de faire réaliser en 2017 les travaux suivants. Sur les cantons du Mas des Piboules, parcelle forestière 17, de Rampal, parcelle forestière 16, du Mas du Rouge, parcelle forestière 17, mise en andain partielle suite à la coupe de bois sur une surface totale de 6 hectares 3. Sur les cantons de Rampal, parcelle 16, si c'est les mêmes parcelles, c'est parce qu'il y a plusieurs travaux sur les mêmes parcelles. Et du Mas du Rouge, parcelle forestière 17, broyage des rémanents après coupe sur une surface totale de 9 hectares 8. Sur les cantons de la Lec, parcelle forestière 1, sur le Mas des Piboules, parcelle forestière 12, broyage des rémanents d'exploitation sur une parcelle totale de 11 hectares 5. Le montant total estimatif des travaux est de 26 690 euros hors taxe, donc de 29 359 euros TTC. La dépense est subventionnable à hauteur de 50% par le conseil départemental dans la limite de 30 000 euros. Participation du conseil départemental à la hauteur de 50%, 13 345 euros. Et autofinancement, 13 445 euros. je demande au conseiller municipal de bien vouloir.
Merci. Pas de prise de parole. Alors, sur la proposition de M. Lapeyre, qui est contre ? Abstention ? Unanimité. À nouveau, M. Lapeyre.
Bon, c'est un peu le même style de travaux, mais...
Il y a une question.
Non, non, c'est juste sur le plateau de l'accro. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose ? Parce qu'il y a des préservatifs usagés en grand nombre qui se baladent.
C'est pour éviter la prolifération des arbres.
Ah ouais, t'as raison, ben voyons. Non, mais comme il y a énormément d'enfants et de gens qui promènent, ce serait bien de faire quelque chose.
Quoi. C'est dans le domaine public ?
Ben, regardez.
Fait circuler les photos.
Ah d'accord.
Eh bien.
Et il y en a un certain nombre. Donc,
quelle activité ?
T'as avec les amis ?
Non, mais ce serait bien, c'est sur le plateau de la Croix, c'est là où il y a les tables quand on fait le pique-nique. Donc, voilà.
Bon, on va. Madame Mazuy, vous avez noté ?
On fera comme pour les douilles vides. On fera comme pour les douilles vides, pendant le sac. Et...
vide, je suis pas sûr sur le mot.
Justement, parce que.
Là, c'est pas les...
Bien. On va continuer. Donc.
S'il vous plaît, quelles mesures allez-vous prendre pour mieux surveiller les coupes de bois pour ne pas retomber dans les mêmes travers que les dernières fois ?
C'est-à-dire ?
Eh bien, le RDF avait coupé un peu trop radicalement certains bois. Après, au niveau du plateau aussi, il y avait eu un problème. Cette fois-ci, j'espère que ça ne va pas refaire la même chose et qu'on préservera encore nos alpilles.
Nous avons
demandé... Et s'il vous plaît, est-ce que je pourrais aller voir les endroits spécifiques qui vont être coupés ? Encore une fois, je suis intéressée, j'aimerais voir comment... Où sont les parcelles et comment ça va se faire ?
Alors les parcelles qui ont été coupées, ou les parcelles qui vont l'être. Vous voulez les voir avant pour voir comment c'est et après pour voir ce que ça
là,
donne.
Là, j'espère qu'elles ne sont pas encore coupées puisque vous nous les présentez ce
Mais
soir.
Mais ça, je présente les travaux qui vont être faits avant pour que les parcelles soient faites et les travaux qui seront faits après. Mais là, les parcelles ont déjà été votées en juin 2016, les parcelles à couper. Mais on peut aller voir si vous voulez. Alors, il y a eu des coupes déjà au bord des chemins, mais ça, c'est la DFCI, c'est autre chose. C'est dans le cadre des DFCI. Quant aux coupes, bon, pour faire de la vente de bois, le vont effectivement commencer. Si vous voulez, on peut voir un endroit où ça n'a pas été fait et aller voir après où ça sera fait.
D'accord, avec plaisir.
Je vous tiens au courant.
Parce que nous comptons aussi, toute l'équipe compte surveiller un peu ces coupes de bois pour éviter quand même cette déforestation un peu sauvage.
Ok, vous avez raison.
Surtout que si on se souvient bien, Monsieur le maire et je crois même Madame Ravez avaient dit que vous étiez dans l'incapacité de prendre des mesures contre la société qui avait... D'abord, c'était les forestiers, je crois, qui avaient... aussi, ERDF, qui avait, j'ose le dire, si mal travaillé, quoi. Mais il n'y avait pas eu de mesures prises, donc on s'inquiète, parce qu'on se dit, si ça doit se renouveler, nos Alpes...
Je me permets d'intervenir, parce qu'à vous entendre, on dirait qu'on fait n'importe quoi. Là, je me permets de réagir. On vous a déjà emmené sur le terrain, vous avez vu comment ça se passe concrètement. Là, on est en train de parler des travaux conduits par l'ONF. On ne parle pas du tout des OLD, là. Donc, c'était les coupes de bois dans le cadre d'aménagement du plan d'aménagement de la forêt qu'on a voté tous ensemble l'année dernière, donc qui est prévisionnel sur 20 ans. Ce à quoi vous faites allusion, dont on a déjà débattu dans les conseils municipaux, c'est dans le cadre des OLD faites par ERDF, enfin, c'est plus ERDF maintenant, excusez-moi, le Enedis, qui en fait, on avait signé une convention. Tout a été fait dans les normes. Il y a l'agent de l'ONF qui s'est déplacé, notre éco-garde qui s'est déplacé, sauf une petite parcelle qui était bien embêtante, c'est là où il y a la cabane des chasseurs, qui n'était pas dans le cadre du plan d'aménagement forestier. Voilà. Et c'est celle-là, en fait, qui est passée à travers les mailles du filet. Donc, dans les 99% des cas des OLD qui ont été faites par ERDF, ça a été fait correctement et ça a été surveillé et contrôlé. Après, voilà, ça peut arriver. Sachant qu'on a écrit de suite, donc, à ERDF, enfin, excusez-moi, c'est plus le terme, c'est inédit, ça maintenant le. Oui, en fait, voilà. À la société qui est intervenue, on a dit c'est une société publique, c'est l'équivalent des forestiers du Vaucluse. Nous-mêmes, on a été étonnés de comment ça s'est passé. Donc voilà, les mesures ont été prises, on a écrit, on a bien noté la parcelle en question. On va être bien plus vigilant, bien sûr, si ça devait se reproduire. Mais il faut quand même pas généraliser, quoi. C'est exceptionnel ce qui est arrivé, malgré toutes les précautions qui ont été prises par les services municipaux. Voilà.
Sur la délibération.
S'il n'y a plus de questions, on peut passer au vote.
Très bien.
C'est la première, bien sûr.
Non, mais la première, on a adopté.
C'est fait. Alors, la seconde, pardon. Alors, moi, j'en étais toujours à la première avec les questions. Bon, alors c'est toujours des travaux sur la forêt. Ce coup-ci, c'est des travaux non subventionnés. Et c'est toujours dans le même contexte. C'est à peu près sur les mêmes parcelles. Il y a des travaux qui sont subventionnés et il y en a qui ne le sont pas. Bon, dans le cadre des travaux de gestion et d'amélioration de la forêt, il est projeté de réaliser les travaux suivants. Création et entretien de parcellaires, pardon. Pour savoir où les entreprises vont couper le bois, il faut que ce soit tracé, autrement, et du crochetage. Bon, dans les travaux de création et entretien de parcellaires, pour un montant de 8 297 €, il s'agit de création d'un périmètre de chantier, puis traitement manuel des layons et marquage à la peinture. Les cantons concernés sont le Mas des Piboules, plus gros problème à parcelle, Rampal, parcelle forestière 16, le Mas du Rouge, parcelle forestière 17, Cadenière, parcelle forestière 20, pour une longueur totale de 3,2 km. Des travaux d'entretien du périmètre d'entretien, là, c'est plus la création, un traitement manuel et peinture sur une longueur de 0,7 km, concernant les cantons Rampal, parcelle forestière 16, le Mas du Rouge, parcelle forestière 17. Ces travaux doivent être réalisés en préalable aux coupes de bois, autrement ils ne savent pas où ils coupent. Hein. Et les délibérations en date du 10 novembre 2016, dont la vente est prévue pour l'automne 2017. Il y a des travaux de crochetage pour un montant de 7 590 € TTC. Ils sont prévus sur les cantons de la LEC, les cantons du Mas des Piboules, parcelle 12, sur une surface totale de 11,5 hectares. Le crochetage est un travail superficiel réalisé avec un engin adapté en milieu forestier permettant de remuer et ameublir une partie superficielle du sol et ainsi favoriser la germination des graines et notamment celle des arbres. Le montant total des travaux de 14 260 € hors taxes, soit 15 897 € TTC. Les montants correspondants seront inscrits au budget primitif de la commune 2017. Je vous demande d'approuver les travaux ci-dessous et de laisser Monsieur le maire pouvoir préparer tous les documents. Merci.
Parfait, merci. Pas d'intervention. Qui est contre ces propositions de travaux ? Abstention ? Unanimité ?
Nous n'avons pas dit que vous faisiez les choses de travers, Madame Ravès. On a simplement dit que plus on est, plus à surveiller, plus ça serait peut-être possible. C'est simplement comporter notre contribution, c'est tout.
Très bien. Alors, on passe aux affaires financières. Délibération classique, indemnité de conseil au receveur municipal. Donc, vous avez le montant de 2 411,91 €. Hein, vous savez que c'est l'indemnité votée habituellement à Madame Touveret. Voilà. Sur cette indemnité, qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Je vous rappelle que ça permet aux receveurs de payer des assurances qui sont très importantes, puisqu'ils sont responsables sur leurs données personnelles s'il y a des soucis de comptabilité. Donc, du coup, l'assurance est très chère et du coup, il y a ces indemnités. Alors, dossier suivant, Monsieur Colombet.
Oui, bonsoir. Le dossier suivant concerne l'actualisation du plan de financement, demande de subvention 2017 auprès du conseil départemental concernant la collégiale. Alors, je demande à l'Assemblée que suite à une campagne de diagnostic, une délibération en date du 24 mars 2017 avait autorisé une demande de subvention pour des travaux d'urgence concernant la collégiale. Les dossiers déposés ont permis d'obtenir une première subvention de 123 553 euros de la part de la Direction régionale des affaires culturelles, donc le ministère via la DRAC. Alors, ce soir, je demande au sein de l'Assemblée d'actualiser le plan de financement et de solliciter une fois de plus le conseil départemental comme suit au titre de l'année 2017. Donc, concernant les travaux, plutôt, hein, c'est d'une valeur de 247 107 €. Donc la DRAC, on est d'accord qu'ils nous ont versé 50%, soit 123 553,50 €. Le conseil départemental, on le sollicite une fois de plus à hauteur de 20%, soit 49 421,40 €. Et nous gardons l'autofinancement de la commune à 74 132, soit 30%, ce qui fait le total à 247 107 €. Donc je demande au conseil municipal de solliciter bien évidemment le conseil départemental à hauteur de 49 421 € et d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce utile à l'exécution des présentes. Merci.
Parfait. sur cette demande de M. Valicio.
Il me semble qu'une demande avait déjà été faite pour la subvention au niveau du CD13. Est-ce que pourquoi cette année ils accepteraient? Pourquoi ils n'ont pas accepté l'année dernière et pourquoi cette année ils accepteraient, surtout que les subventions sont de plus en plus diminuées?
Pourquoi cette année ils accepteraient? C'est pour ça qu'on relance. Après, on n'a pas eu de motif particulier déjà du pourquoi du refus. Donc, il était tout à fait normal de relancer le conseil départemental pour demander une subvention en 2017. On n'a pas eu de motif spécifique qui disait le pourquoi on a été refusé en 2016. Donc, on essaie encore une fois de plus en 2017.
Et est-ce que vous pouvez nous donner un calendrier des travaux?
Comment ça, concernant les travaux de la collégiale, le calendrier là, tout ce que je peux vous dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que on n'a pas eu assez d'entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres, donc le marché a été relancé, donc différentes entreprises là ont commencé à répondre, donc on vous en dira un peu plus concernant le calendrier incessamment sous peu.
Très bien, merci.
Sur cette demande de subvention, qui est contre? Abstention? Unanimité? Dossier suivant, M. Favergeau.
Donc il s'agit des tarifs de stationnement sur les parkings publics. À la fin de l'année 2013, comme chaque année au mois de décembre, on a voté les tarifs des services publics. Et vous en souvenez, on n'avait pas touché à la partie parking, parce qu'on vous laisser le temps de la réflexion et surtout terminer l'exercice budgétaire 2016 pour pouvoir envisager les nouveaux tarifs qu'on appliquerait en 2017. Donc vous devez avoir sur votre table les tarifs proposés. Vous voyez donc, à deux exceptions sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, les tarifs ne changent pas. Il y a toujours les zones vertes, oranges et rouges. Je ne vais pas redétailler tout ça. Et le tarif des antiques à Glanum. Ce qui va être modifié et qui va être donc augmenté, c'est le macaron. Le macaron pour les Saint-Rémois qui était de 10 euros par an et qui permet donc de se garer toute l'année sur la zone orange et gratuitement, va passer de 10 à 15 euros. Et le macaron pour les non-résidents, donc ce sont ceux qui travaillent à Saint-Rémy essentiellement, qui va passer de 24,50 euros par an à 50 euros par an. Voilà, les autres tarifs horaires, encore une fois, je le répète, sont inchangés. Et vous les avez sous les yeux.
Merci. Sur cette proposition.
Oui. Ça nous surprend assez quand même que vous touchiez aux tarifs qui ne concernent finalement que les Saint-Rémois et ceux qui font vivre Saint-Rémy, quoi, je veux dire, parce que ceux qui ont le macaron, c'est la population saint-rémoise. Et au départ, il me semblait qu'on avait dit que l'objectif de ce nouveau dispositif était avant tout pour tous ceux qui venaient visiter Saint-Rémy, en disant que Saint-Rémy était une ville touristique et qu'il y avait là une manne pour que, effectivement, les touristes paient, comme dans d'autres villes, leur stationnement. Bon, on voit bien que tout ce qui est pour les touristes n'a pas été touché, n'a pas changé. Par contre, ce qui est macaron, ça passe du simple au double pour les commerçants. Je me demande s'ils vont bien apprécier et je me demande surtout pourquoi cette politique de votre part. Merci.
Oui, votre remarque ne me surprend pas outre mesure. Donc je vais rappeler les fondamentaux, puisque quand on a mis en place les parkings payants au courant 2016, on a effectivement axé notre politique de tarification en faveur des Saint-Rémois. Et on la retrouve ici, puisque on a, lorsqu'on est Saint-Rémois, la possibilité de se garer sur les parkings gratuits comme tout le monde. Lorsqu'on est Saint-Rémois, on a la possibilité de se garer gratuitement toute l'année, toute heure du jour et de la nuit sur la zone orange, pour un macaron qui était de 10 euros par an et qui sera de 15 euros par an dorénavant si le conseil municipal valide. Donc on se gare quasiment gratuitement parce que 15 euros par an, ça fait moins de 5 centimes par jour, si je me trompe pas. Et après, sur la zone rouge, on a toujours la possibilité des 45 premières minutes gratuites qui permet à tout un chacun, et je pense que vous l'avez constaté, que vous l'avez utilisé aussi, à tout un chacun de venir, de faire trois courses et de repartir sans payer le parking. Donc la politique de parking en faveur des Saint-Rémois, elle est toujours bien présente à l'esprit, elle est toujours bien présente dans les tarifs. Après, encore une fois, le tarif de 10 euros, il était quand même, si vous regardez un petit peu ce qui se pratique dans d'autres communes, ridiculement bas. Enfin, il était bas. C'était quasiment gratuit. Et la raison pour laquelle on passe de 10 à 15 et de 24 à 50 par an, c'est effectivement parce qu'à un moment donné, le service apporté au travers de la gratuité des eurodateurs qui sont mis en place pour les Saint-Rémois, etc., ça coûte plus de 10 ou 15 euros par an et par Saint-Rémois. Donc, encore une fois, l'esprit, c'est toujours pareil, de favoriser l'activité, le parking en faveur des Saint-Rémois, de favoriser l'activité commerciale en enlevant les voitures ventouses, parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, donc je l'évoque, en enlevant les voitures ventouses, mais tout en permettant de se garer 45 minutes gratuitement. Bon, après, c'est sûr qu'on peut toujours dire, on peut faire différemment, mais il y a quand même les fondamentaux, c'est préserver l'intérêt des Saint-Rémois à pouvoir accéder gratuitement ou presque, sur les parkings à Saint-Rémy.
Alors donc, je vous ai bien écouté. Tout ce que vous m'avez dit, on le savait déjà. La seule chose qui me surprend quand même assez, c'est... Alors, bien sûr que 15 euros par an, la somme en elle-même, elle n'est quand même pas trop impressionnante, je suis d'accord. Idem pour les commerçants. Mais c'est sur la politique... C'est tout, c'est ce que je vous ai dit. Après, je reconnais que 15 euros, voilà, bon, c'est un tarif très abordable, 50 euros pour les commerçants aussi. Simplement, voilà, moi, ça me surprend assez, parce que autant je pouvais comprendre à la limite que le fait que nous soyons une ville touristique puisse effectivement nous apporter des plus dans le cadre du parking et du stationnement. Autant là, pour les Saint-Rémois, je vois pas bien... Voilà, je ne sais pas trop comment vous allez justifier ça auprès de nos sœurs et moi. Madame Mais bon, Aoun, vous assumez, je pense, donc tout va bien.
Madame Aoun, je pense qu'il faut conserver, avoir en tête les proportions quand même. Un sœur et moi, il va payer 50 fois moins par jour, d'accord, pour laisser sa voiture toute la journée garée, qu'un touriste pendant une heure. D'accord ?
Oui,
voilà. Bon. 50 fois moins par jour que de touristes pendant une heure. Donc oui. Dire on privilégie les touristes au détriment des Saint-Rémois, pardonnez-moi, mais c'est un petit peu à côté de la plaque. Il a dit qu'il veut faire marcher, c'est 4 centimes par jour.
Oui, mais je sais bon, tout ça, okay. Je sais.
Voilà.
Donc, on s'est compté aussi, c'est pas la question.
Que c'est raisonnable. Voilà.
Mais, et si on mais se je trouve ça dommage.
Communes,
voilà.
Si on se compare à d'autres communes, vous voulez que je vous parle oui,
mais non, mais on le sait, ça, vous les avez
si
toutes.
Vous le savez, alors, parfait.
Non, donc, mais nous, à la limite, ce qui nous importe, c'est Saint-Rémy, d'abord. Et ensuite, si vous voulez, voilà, j'avais envie de vous dire que nous, personnellement, on votera contre. Vous pouviez vous en douter aussi. Et pour des raisons...
On vote contre les recettes et pour les dépenses.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est facile comme ça.
Et oui, c'est facile, oui, d'être dans l'opposition, ça l'est, c'est sûr.
Oh, bah écoutez, hein, chacun son tour, comme ma confesse. Donc, voilà, et bah écoutez,
après
moi je vous ai dit.
Confesse.
Voilà. Eh bah écoutez, pourquoi pas, hein? Les 7 péchés capitaux. Bon, donc, voilà, ceci dit, vous assumez, bah c'est parfait, et nous on assume notre vote aussi. Donc, nous voterons contre. Merci. Attendez, il y a une question.
Juste une question. Combien de macarons résidents Saint-Rémois vous vendez par an et combien de macarons non résidents sont vendus par an ?
L'année dernière, je crois que c'était presque 4000, c'est ça ? Un petit peu moins. Bon, entre 3 et 4000. Ouais.
4000 en Saint-Rémois résidents et en non résidents ? C'est 300.
Oui, je pose.
L'année dernière, on a eu des difficultés à avoir des justificatifs de paiement pour les macarons au niveau des sociétés. Il est important que les sociétés aient un justificatif de paiement.
On est d'accord. Madame Borel ?
Oui, mais on va y travailler pour l'année prochaine pour produire une attestation. C'est ça hein, qui vous importe. D'accord, c'est noté.
Bien, alors on va voter macarons. Sur les macarons. Sur la proposition d'Yves Faverjon, qui est contre ? 8 contre ? Abstention ?
Moi.
Une abstention ?
Je maintiens ce que j'avais dit lors de la réunion de la majorité.
Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien, alors, le débat d'orientation budgétaire. Donc, vous savez que la loi, je le répète toutes les années, je vais vite là-dessus, vous savez que la loi nous impose dans les communes de plus de 3 500 habitants, communes et intercommunalités d'ailleurs de plus de 3 500 habitants, de présenter au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport, vous l'avez sous les yeux. Comme toutes les années, on rappelle le contexte général. Alors bon, le contexte, il est encore, comment on pourrait dire, plus incertain et plus fluctuant que les autres années, puisque, bon, que ce soit au niveau international, national, enfin bon, c'est compliqué partout. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on manque de visibilité sur tout, hein, les taux de change, les taux d'intérêt, comme il est écrit dans la note. Vous savez qu'il y a eu des élections dans des grands pays, qu'il va y avoir des élections présidentielles et législatives. Le moins qu'on puisse dire, c'est que on n'a pas de visibilité là non plus, là-dessus. Pas plus sur les programmes que sur les candidats. Donc bon, tout ça est un petit peu compliqué. Vous avez dans la suite de la note donc l'environnement économique et financier sur la zone euro, sur donc le déficit de l'État avec un graphique qu'a préparé Monsieur Vallée. Vous avez ensuite l'objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités. C'est la valeur indicative que l'État nous propose. Je ferai remarquer au passage que rien que sur l'augmentation du point d'indice qui est à 1,2, on dépasse les prévisions d'augmentation de l'État. Donc ils sont gentils de nous donner des conseils, mais bon, il faudrait quand même se mettre en cohérence. Parce que quand on augmente le point d'indice de 1,2 et qu'on nous propose des dépenses de fonctionnement limitées à 1,1, je voudrais qu'on m'explique comment on fait. Sachant qu'on le dira tout à l'heure, mais en 2017, il y aura 4 journées d'élection. Une journée d'élection, c'est 20 000 euros, puisque on va avoir 10 bureaux de vote. Suite à l'augmentation forte du nombre d'inscrits sur les listes électorales, ça je le dis au passage pour l'INSEE. Donc bon, compliqué de tenir les 1,1, mais bon, ça on en reparlera tout à l'heure. Concernant les baisses de dotation, il y a un rappel des chiffres. Il y a un rappel aussi sur le report de la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Ça a pas pu être mis en place pour 2017, donc bon, on attendra si ça se fait les années suivantes. Point important, on va avoir droit cette année à une minoration des compensations d'exonération de fiscalité locale. Donc on le verra tout à l'heure, ça nous fait perdre de mémoire 160 000 euros, plus les 180 000 euros de la baisse de la DGF. Donc on est déjà à 340, un bonheur. Et il est rappelé aussi, bon, parce qu'il y a quand même parmi tout ça quelques bonnes nouvelles, donc il y a un fonds de soutien à l'investissement public local qui a été mis en place. Et bon, évidemment, on demandera des subventions pour essayer d'émarger sur ce fonds. Voilà. Autre point, page 9, il est rappelé que les valeurs locatives catastrales ont été augmentées de 0,4%. Ça, c'est le Parlement qui l'a voté, hein, donc c'est l'État. Pour l'année 2017, c'était 1% en 2016. Donc là aussi, on minore nos possibilités de recettes. Et c'est bien dommage. Vous avez après toutes les pages suivantes, donc une présentation, comment on pourrait dire, de ce que sera, enfin des grandes lignes du compte administratif, puisque là, vous le voyez, ça a été arrêté au 24 janvier, qui est une excellente date, 2017. Et c'est pas jusqu'au 31, alors que la journée complémentaire va jusqu'au 31. Donc on vous présentera un compte administratif complet et définitif lors du vote du budget qui sera le 20 mars, le lundi 20 mars. Voilà, je le rappellerai en fin de séance. Donc vous avez les grandes lignes du compte administratif. Bon, je passe rapidement parce qu'encore une fois, ça sera présenté de manière plus complète et définitive le mois prochain. Vous avez après, page 15, un rappel de la structure de l'endettement. Quelques mots donc sur les dépenses de personnel. Et puis on en arrive, page 16, aux orientations budgétaires 2017, qui est quand même la partie la plus importante de ce document. Donc, on rappelle là aussi les grandes lignes. Deux mots sur les dotations de l'État. Dotations de l'État, je viens de vous le dire, hein, on va perdre 180 000 euros sur la dotation globale de fonctionnement. Alors pourquoi 180 000 euros? Parce qu'on a fait la moyenne de ce qu'on a perdu en 2015 et 2016. En 2015, c'était 366 000 et en 2016, 351 000. Bon, grosso modo, ça fait 360 000 de pertes par an. Et le président de la République a annoncé au mois de juin au Congrès des maires que ça serait diminué de moitié en 2017. Donc bon, on a pris la moitié de 360 000, 180 000. Bon, s'il n'y avait que ça, ça serait déjà embêtant, mais bon, pas trop trop grave. Mais le problème, c'est que se rajoute là-dessus ce dont je viens de vous parler, à savoir la minoration des compensations d'exonération de fiscalité locale. Où là, d'après nos calculs, on va être a priori à 150-160 000 euros. Donc, on va perdre cette année en dotation autour de 340 000 euros. Sur la fiscalité directe locale, on est à 7,7 millions à peu près de fiscalité. On considère, bon là aussi on a pris les moyennes des années précédentes, on considère que les 0,4% de l'État votés par le Parlement dont je viens de vous parler, plus 1,1, 1,2, bon, je ne peux pas vous donner de chiffres plus précis que ça, on n'a pas encore les chiffres de l'État, on n'a pas encore les recettes, mais bon, toutes les années, on a l'assiette qui a augmenté d'un petit peu plus d'un pour cent. Donc, on a fait une augmentation de 1,5. Donc, 1,5 sur 7,7 millions, ça fait à peu près 100 000 euros de plus de fiscalité. Sur les reversements fiscaux de la communauté de communes, sauf catastrophe sur le FPIC, c'est le fonds de péréquation de l'intercommunalité. Le FPIC, il est passé en 4 ans pour l'intercommunalité, de 40 000 euros à 800 000 euros en tout, puisque l'intercommunalité prend en charge aussi la part communale. Donc, sauf si de 2016 à 2017, on nous augmente de 50%, et là, bon, on se retrouverait coincé à la communauté de communes, donc obligé de baisser les dotations de solidarité communautaire aux communes, ou faire appel à la fiscalité intercommunale. Mais bon, je ne veux pas faire de scénario catastrophe pour la communauté de communes, mais bon, vous voyez que tout ça est imbriqué, puisque la communauté de communes verse une dotation de solidarité communautaire qui était à hauteur de 457 000 euros l'année dernière. Donc, a priori, on devrait la retrouver cette année sous les réserves que je viens de vous donner. Donc, concernant les recettes, on est à 340 000 euros de diminution de dotation, à 100 000 euros de plus d'impôts locaux, à une dotation de solidarité communautaire qui devrait être équivalente. Sur la taxe additionnelle au droit de mutation, cette année, on a eu deux très bonnes surprises, contrairement d'ailleurs à ce qui avait pu être dit en conseil municipal il y a quelques mois. Ce n'est pas moi qui l'avais dit. On avait inscrit 760 000 euros de droit de mutation, on a encaissé 1 040 000 euros. Alors, ce n'est pas parce qu'on a eu une bonne surprise cette année que ça va forcément se reproduire dans les années à venir. Néanmoins, il nous semble, correct, sans être insincère au niveau budgétaire sur les recettes, il nous semble correct de revaloriser un petit peu. On ne va pas réinscrire 760 000 l'année prochaine. On a vu avec M. Vallée et Mme Borrell, on va inscrire 100 000 euros de plus, on mettra 860. Ce qui me paraît raisonnable. On a encaissé 1,40 million cette année, mettre 860 000 l'année prochaine, ça ne me paraît pas extravagant, quoi. On est quand même 20% en dessous de ce qu'on a encaissé cette année. Mais bon, il me paraît logique aussi de l'augmenter un petit peu. Donc, si je reviens à mes recettes, 100 000 euros de plus d'impôts locaux, 100 000 euros de plus de droits de mutation, et sur le chapitre 70, donc produits des services et du domaine, vu qu'on aura 5 mois de rodateurs supplémentaires, puisque les rodateurs, je vous rappelle, on les a installés au début juin, on estime la recette supplémentaire à environ 70 000 euros entre ce qu'on a dit tout à l'heure sur les macarons plus la recette des horodateurs. Mais comme on va perdre 20 000 euros sur la piscine, ça fait un différentiel de 50 000 euros supplémentaires sur le chapitre 70. Je vous rappelle que la piscine, on la ferme et qu'on aura une piscine gratuite. Enfin, on aura des bassins gratuits, ce ne sera pas une piscine avec des boudins. Donc, bon, du coup, difficile de faire payer cette prestation, quoi. Donc, du coup, on perd les 20 000 euros de recettes. Donc, 50 000 euros de plus sur le chapitre 70 et 200 000 euros de plus sur le 73, droit de mutation et fiscalité locale. Oui, le même. Donc, sur les recettes, on va perdre environ 90 000 euros par rapport à l'année dernière. Sur les dépenses, vous avez sous les yeux, donc, frais de personnel, les estimations de la DRH, c'est entre 2 et 2,5%. Alors, pourquoi entre 2 et 2,5%? D'abord parce qu'il y a eu une augmentation de 1,2% du point d'indice. Bon là, je ne vois pas comment on peut les discuter. Hein. C'est la loi, on applique, très bien. 1,2%. Ensuite, on aura, je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 tours d'élection. Un tour d'élection, c'est 20 000 euros pour la collectivité. 4 tours d'élection, ça fait 80 000 euros. Et 80 000 euros, ben, on est à presque 1% de la masse salariale. Donc on est déjà à 1,2 plus 1, donc on est déjà à 2,2. Et je vous fais grâce de la PPCR. Carrière en rémunération, c'est quoi déjà PC? Comment? Protocole? Le deuxième PC? Enfin, à la fin, c'est carrière en rémunération. Enfin, c'est la réforme des agents, c'est la réforme des agents de catégorie C. Donc, c'est très bien pour eux, mais bon, ça a un coût pour les collectivités. Donc, c'est pour ça qu'on va tourner autour de 2 à 2,5%. Donc, rien que sur ce chapitre, et je vois pas ce qu'on peut enlever, parce qu'encore une fois, c'est un personnel constant, on embauche personne, on remplace quand on peut, enfin, vraiment, on sert au maximum. Mais bon, il y a 1,2 plus 1 qui me paraissent absolument incontournable. Donc sur le chapitre 012, on va se prendre 200 000 euros. Sur les charges à caractère général, on fait augmentation zéro, mais par contre, il y a 2 fois 30 000 euros qui sont incontournables et qui arrivent en plus. C'est 30 000 euros sur les OLD, sur les obligations légales de débroussaillement. Ça, on n'y coupe pas. Hein. C'est, comment dire, là aussi, hein, dispositif d'État imposé, bon, très bien. Et je vous ai parlé des recettes des eurodateurs qui vont être en progression, mais bon, on est obligé aussi de prévoir des dépenses. On a prévu des dépenses à hauteur de 10% de l'investissement sur les eurodateurs, parce que forcément, il y aura toujours quelqu'un qui va coincer une pièce, mettre un chewing-gum, tordre la carte bleue, y mettre le feu, comme l'année dernière on l'a eu. On a eu des malins qui ont mis le feu à un eurodateur. Bon, tout ça, ça coûte pour la collectivité. Donc on a prévu 30 000 euros pour tout ce qui est entretien, remplacement, réparation des eurodateurs. Voilà. Donc sur le 0,11, tout le reste, on conserve à 0% d'augmentation. On va avoir à minima 60 000 euros de plus. Donc 200 plus 60, ça fait 260. Par contre, sur le chapitre 67, on n'aura plus cette année le versement FISAC, de la subvention FISAC, puisque je vous rappelle que tout ça a été transféré à l'intercommunalité. Donc là, on va gagner 30 000 euros. Donc 260 moins 30, on est à 230 000 euros de dépenses supplémentaires. Donc 90 000 euros de recettes, plus 230 000 euros de dépenses, enfin 90 000 euros de recettes en moins, pardon, plus 230 000 euros de dépenses, vous voyez, on est à 320 000 euros de décalage par rapport au budget 2016. Et il se trouve, alors c'est le hasard des chiffres, hein, on l'a pas fait exprès, on a essayé de tirer au maximum, on va encore continuer à travailler pour essayer de trouver encore des économies supplémentaires, mais bon, ça devient vraiment difficile parce qu'on est vraiment à l'os, si je peux me permettre cette expression. Il se trouve qu'on a 321 000 euros d'excédent. Donc 321 000 euros d'excédent et 320 000 euros entre dépenses supplémentaires et recettes en moins, on équilibre à peu près. Le problème, c'est qu'avec tout ça, on ne dégage pas d'autofinancement pour abonder la section d'investissement. Bon, on a une chance en 2017, c'est que la régie de l'eau est transférée à l'intercommunalité et que donc on va faire la même opération que ce qu'on avait fait sur la régie d'assainissement. Monsieur Vallée est allé vérifier les chiffres aujourd'hui donc pour pouvoir présenter quelque chose qui tient la route en débat d'orientation budgétaire. Et il se trouve que sur la régie de l'eau, déduction faite de ce qu'il faudra donner à la CCVBA pour démarrer les opérations, pour avoir un peu de trésorerie sur le budget annexe intercommunal de régie de l'eau, comme on l'avait fait sur l'assainissement. Déduction faite de tout ça, déduction faite des restes à payer de la régie de l'eau, on aura entre 260 et 340 000 euros donc de reliquats de la régie de l'eau. Alors pourquoi entre 260 et 340? Parce que on a une discussion sur la TVA qui aujourd'hui n'est pas tranchée. Donc c'est cette somme qui pourrait nous aider à abonder donc notre compte 1068 de transfert entre la section de fonctionnement et la section d'investissement pour financer notre section d'investissement. Voilà. Voilà ce qui vous est proposé donc ce qui vous est proposé. Voilà les grandes lignes de ce rapport d'orientation budgétaire. On va essayer une nouvelle fois de tenir sans toucher à la fiscalité, mais bon. Je pense qu'on est au bout du bout de l'exercice. Si l'année prochaine on se retrouve avec un gouvernement qui, à nouveau, baisse les dotations aux collectivités territoriales. Franchement, je ne vois pas comment on pourra faire, parce qu'on n'aura plus la poire pour la soif de la régie de l'eau. Et sur le reste, on ne peut pas continuer à serrer sur les dépenses à caractère général, à ne pas renouveler certains départs à la retraite, etc. etc. quoi. C'est impossible. Alors, tout ce que je vous ai dit ce soir, ce sont des chiffres à périmètre constant. C'est, en gros, si on rapporte le budget primitif 2017 au budget primitif 2016. Les chiffres que vous aurez, qui vous seront présentés lors du vote du budget, ça sera pas ça. Ce sera pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les transferts à la communauté de communes. Mais les transferts à la communauté de communes, on en a parlé 10 fois ici, ce sont des opérations blanches. Donc, les recettes vont diminuer et les dépenses vont diminuer. Et évidemment, elles doivent diminuer à due concurrence, hein, elles doivent diminuer de la même somme. Donc vous aurez des budgets qui seront fortement diminués en dépenses et en recettes par rapport à 2016. Mais bon, sur l'équilibre à périmètre constant, ça ne change rien à tout ce que je viens de vous dire. Après, il y aura des répartitions différentes. Par exemple, la taxe de séjour, elle sera éclatée entre une partie qui sera sur la baisse de l'attribution de compensation et une autre partie qui restera à la commune, parce que c'est le différentiel entre ce qu'on versait à l'office de tourisme et ce qu'on encaissait sur la taxe de séjour. Donc tout ça sera réparti dans le budget, mais grosso modo, vous aurez des dépenses et des recettes qui vont baisser. Par contre, les comparaisons du chapitre à chapitres seront compliqués pour les raisons que je viens de vous indiquer, parce que les transferts, ben, ça a des conséquences qui sont éclatées sur les différents chapitres budgétaires qu'on retrouve évidemment globalement en grosse masse en dépenses de fonctionnement, en recettes de fonctionnement, en dépenses d'investissement, en recettes d'investissement, enfin beaucoup moins d'investissement, hein, c'est surtout sur le fonctionnement. Mais après, pour faire des comparaisons chapitre à chapitre, ça sera plus difficile. Sur le 012 par exemple, vous aurez toute la masse salariale des 13 agents qui ont été transférés sur le ramassage des ordures ménagères qui sera plus là. Par contre, vous aurez cette somme qui arrivera aussi en diminution en recettes sur l'attribution de compensation. Donc ça va un petit peu chambouler toute l'architecture de notre budget. Mais bon, globalement, encore une fois, j'ai essayé de faire simple, de partir chapitre par chapitre et de partir sur le périmètre qu'on avait, le périmètre budgétaire qu'on avait l'année dernière. Voilà donc sur le fonctionnement, sur l'investissement. Sur l'investissement, donc là cette fois je vais partir des recettes, ça sera plus simple. On va avoir 433 000 euros de fonds de compensation de la TVA, ça c'est une recette sûre, très bien. On va avoir 380 000 euros de taxes d'aménagement, ça aussi c'est a priori une recette sûre. 90 000 euros de cession, on a fait une vente il y a 2 ans mais on n'a jamais encaissé parce que c'est un petit peu traîné pour signer l'acte, donc on va les avoir cette année, donc en recette et d'investissement. On aura 2 400 000 euros de subventions sur les travaux qu'on a prévus. On aura donc 300 000 euros de virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Je viens de vous en parler. On aura 730 000 euros d'affectation du résultat. Ça, j'en ai pas parlé, j'en reparlerai au moment du vote du budget, mais on a un excédent tout à fait correct en fonctionnement cette année, grâce entre autres aux droits de mutation. Donc on a un excédent tout à fait correct. Cet excédent, on va l'éclater en 300 000 euros sur la section de fonctionnement et en gros, j'arrondis, 700 000 euros sur la section d'investissement. Donc c'est pour ça qu'on a les 730 dont je vous parle en affectation du résultat. Et on aura 880 000 euros de recettes sur les restes à réaliser. On verra dans quelques instants les dépenses en restes à réaliser. Donc on a à peu près, si vous faites le total, 6 284 000 de recettes d'investissement. J'ai oublié 771 000 euros de subventions qui devraient arriver en fonction des travaux qu'on va inscrire. Et cette année, a priori, on devrait inscrire uniquement 300 000 euros d'emprunt. Voilà. 300 000 euros d'emprunt, non, je dis une bêtise. On va inscrire 300 000 euros plus 771 000 et on diminuera, comme on fait toutes les années, les emprunts en fonction des subventions qu'on va percevoir. Mais les subventions qu'on imagine percevoir, c'est 771 000. Donc, a priori, on devrait inscrire 1 171. Alors, bon, c'est pas à 1 000 euros près, hein, c'est dans les grandes lignes. Encore une fois, on est qu'au rapport d'orientation budgétaire, hein, on n'est pas au vote du budget. Donc, allez, en gros, on va inscrire 1,2 million d'emprunts. Et comme toutes les années, on le diminuera en fonction des subventions qu'on va recevoir. et a priori, on ne devrait pas réaliser plus de 300 000 euros d'emprunt en 2017, ce qui nous permettra de désendetter fortement en 2017 la ville. Ça, c'est une bonne chose, sachant que les soucis qu'on a, c'est plutôt sur le fonctionnement, comme on vient de le voir. Alors, tout ça, ça va nous permettre d'inscrire la même somme en dépenses d'investissement, donc en gros 6,3 millions. Il y a 1 475 000 de restes à réaliser, donc ceux-là, ils sont bloqués. Il y a 1 million d'euros de remboursement d'emprunt, ceux-là, ils sont bloqués aussi. On rembourse nos dettes, c'est normal. Donc, si vous faites 1 475 000 plus 1 million, ça fait 2 475 000. Si vous l'enlevez à 6 284 000, il reste à 10 000 euros près, 3 800 000 euros d'investissement, dont je ne vais pas vous parler ce soir parce qu'il faut qu'on en discute avec nos collègues de la majorité. Donc ça sera présenté en commission des finances et le jour du vote du budget, donc le 20 mars, je le rappelle. Sur ces 3,8 millions, il y aura évidemment tout ce qui est engagé. Terminer la dernière tranche des rues du centre-ville, ça c'est autour de 600 000 euros, monsieur Vallée, je ne dis pas de bêtises. Monsieur Vallée, je suis désolé de vous interrompre. Oui, les travaux du centre-ville, c'est 600 000 euros, c'est ça? Bon, il y aura donc les travaux du centre-ville. Il y aura ce qu'on a programmé sur les échelles de mon dossier, avec tout ce qui est engagé. Bon, évidemment, ils seront inscrits d'office. Et puis le reste, ça sera une discussion entre élus pour voir qu'est-ce qu'on peut inscrire pour atteindre les 3,8 millions. Mais bon, il sera difficile d'aller plus loin au vu du contexte budgétaire dont je viens de vous parler. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible. Bon, à quelques dizaines de milliers d'euros près, vous retrouverez ces chiffres dans les propositions budgétaires.
Oui, merci Monsieur le maire de tous ces détails que nous n'avions pas dans le DOB d'abord. Par contre, nous avons regardé entre tous ce document et nous avons malheureusement aperçu une petite erreur à la page 11 dans les dépenses réelles. Il n'est pas question de 15 832 mais plutôt 15 232. On a fait le compte et vu les charges, les charges financières, les charges exceptionnelles, le compte est de 15 232 806,1 euros.
Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure.
C'est qu'un détail, je crois, de transcription, je vais vous dire quand même, parce qu'après, les ratios et les pourcentages que vous avez donnés sont bons et ont été calculés, semble-t-il, avec le bon chiffre.
Alors, vous avez raison, il y a certainement une erreur, mais encore une fois, comment vous dire, prenez pas ces chiffres pour argent comptant, c'est le cas de le dire, parce que ça, ce ne seront pas les chiffres du compte administratif, il n'est pas tout à fait finalisé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est arrêté au 24 janvier, parce que bon, il fallait bien, à un moment donné, boucler les documents et les envoyer aux élus municipaux, donc le compte administratif, il y aura quelques petites variations. Mais allez-y, monsieur
Vallée. C'est effectivement une coquille, puisqu'avec les 15 200 et les 577, on arrive à peu près aux 15 810 du total.
Oui, mais c'est ce qu'a dit madame Pascal. Oui, c'est ça.
Bon, très bien. Ensuite, on voulait vous donner notre façon d'avoir évalué un peu ce document. On a souligné que les dépenses réelles ont augmenté entre 2015 et 2016 de 1,68%, puisqu'en 2015, elles étaient de 14 980, etc., et que cette année, elles étaient à 15 232. Voilà. Les charges exceptionnelles sont de presque 250 000 euros en 2016, alors qu'elles étaient à 130 000 euros en 2015. Pouvez-vous nous expliquer cet écart ? D'où vient cette augmentation, s'il vous plaît ?
Il y a notamment les reversements qui ont été effectués au titre du transfert de la compétence assainissement. Il y avait 560 000 euros. Et ensuite, il y a le protocole d'indemnisation avec 13 habitats au titre du sol.
D'accord. Quand dans le document, on voit qu'il y a des dépenses de personnel. Vous nous dites qu'elles sont maîtrisées, qu'elles sont inférieures au rapport au crédit ouvert. Cependant, le chiffre affiche une augmentation de 140 000 euros. Par rapport à l'année précédente. Voilà. Ceci dit, c'est vrai que ce n'est qu'un débat. Peut-être qu'après, on aura d'agréables surprises.
En fait, ce qu'on aurait aimé aussi et qu'il a fallu qu'on recherche, c'était les comptes administratifs de 2015, en fait, ils n'apparaissent pas là sur votre tableau.
Pour pouvoir comparer. Encore une fois, Madame Aoun, le compte administratif, on va le voter le 20 mars. Vous aurez tous les chiffres, les comptes.
Bien sûr.
Là, c'est uniquement indicatif.
Oui, bien sûr. Non, mais en fait, ça nous aurait aidé en quelque part quand même.
On a comparé le réalisé.
Oui, bien sûr.
Ceci dit, les chiffres 2015, vous les avez.
Bien sûr. La preuve.
Vous l'avez dans vos documents.
Oui, oui.
Quand on fait des comparatifs, on fait des comparatifs de compte administratif à compte administratif.
Oui, au moment du vote, comme le dit Yves Fabergé. Je vous rappelle que là, c'est le rapport d'orientation budgétaire. Qui. Bon, ceci dit, sur les chiffres que vous avez évoqués, on est vraiment sur des augmentations minimes. Vous avez pu constater vous-même qu'on... On est contraint au maximum et on fait vraiment de gros efforts pour limiter au maximum les augmentations. Parce que vous avez parlé de 1,68% d'augmentation. Et en fait, vous avez apporté la réponse dans votre deuxième remarque sur les charges exceptionnelles qui, elles, ont augmenté justement de manière exceptionnelle et qu'on ne retrouvera pas cette année. Donc si on enlève le delta sur les charges exceptionnelles, on a vraiment une augmentation minime de nos dépenses de fonctionnement. Et ça, on le fait depuis quelques années. Donc, bon, profitez de l'occasion pour remercier les services, la DRH en particulier, parce que sur le personnel, on tire vraiment sur la corde. Mais bon, on n'a pas le choix si on ne veut pas toucher à la fiscalité. Donc bon, encore une fois, je remercie les services. Enfin, en tout cas, on va essayer de tenir le cap. Donc pas toucher à la fiscalité, continuer à investir de manière relativement importante dans cette commune et diminuer le stock d'emprunt. Donc on tient la ligne qu'on s'est fixée au début du mandat. Et ce sera la quatrième année, malgré les baisses de dotation, qui, je vous le rappelle, portent sur 1,5 million d'euros. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc c'est à peu près 10% de nos recettes. Malgré avoir perdu en quelques années 10% de nos recettes, ben, on n'a pas touché à la fiscalité, on continue à désendetter et on continue à investir. Voilà. Mieux que ça, paraît difficile.
Tout à fait d'accord, si vous dites, monsieur le maire.
Comment ?
Mais je vous rappelle que depuis 2012, c'est vos amis, quand vous parlez de l'État.
Oui, non, mais peu importe, vous savez, comment vous dire, je suis pas très rassuré sur la suite, qui que ce soit. Je crains qu'on ait à nouveau des baisses de dotation pour les collectivités, qui que ce soit qui soit élu. Parce que je vous rappelle que dans notre pays, quand même, on réussit le tour de force depuis des années de dépasser 122 et d'encaisser 100. Donc, bon, voilà. Ça, on n'a pas le droit de le faire dans les collectivités territoriales, mais l'État a le droit de le faire, de voter un budget en déséquilibre. Et ça dure depuis 40 ans. Même si, par ailleurs, vous parlez d'amis ou d'ennemis, là, bon, regardez le tableau quand même. Le déficit de l'État, il diminue quand même depuis quelques années. En tapant sur les collectivités territoriales, je vous l'accorde, mais bon, il faut quand même reconnaître qu'il a diminué. Mais je regrette qu'il ait diminué en s'en prenant aux autres, quoi, en faisant peser la charge aux autres, qui, eux, ont été vertueux et, eux, ont diminué leur stock de dette. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat parce que... Bien, sur ce débat d'orientation budgétaire... Monsieur Vallée, vous voulez dire quelque chose ?
On doit prendre acte du débat, il n'est pas soumis.
Oui, tout à fait, oui, non, mais je voulais savoir s'il n'y avait pas d'autres remarques. Donc, en fait, il n'y a pas de vote, vous le savez. Simplement, on prend acte que le débat a eu lieu. Voilà, donc ça, prendre acte, je ne sais pas si c'est que tout le monde peut en prendre acte. En plus, c'est enregistré et en plus, il y a la presse, donc c'est parfait. Alors, nous voterons le budget, je le rappelle, pour la troisième fois, le lundi 20 mars à 19h. D'accord ? Alors pourquoi pas le mardi ? Parce que moi, ensuite, j'ai 3 jours, je dois dispenser des formations pendant 3 jours, donc je ne serai pas là. Donc j'ai essayé d'être là le jour du vote du budget, quand même. Voilà, lundi 20 mars, 19h.
Pardon, monsieur Fabergeon ou monsieur le maire, est-ce qu'il y a une commission budget avant ?
Oui, comme toutes les années.
Est-ce que nous pourrions avoir le document quelques jours avant, au lieu de l'avoir le jour même quand on arrive en commission, s'il vous plaît ?
Moi, ça ne me pose aucun problème. Je
Merci.
Vais dire M. Vallée, parce que vous comprenez le problème, quoi.
Oui.
C'est que, voilà, chaque fois qu'on rajoute des jours, c'est son calendrier qui devient de plus en plus contraint. M. Vallée ?
On va faire un effort.
Merci. Bien. Je crois qu'on en a terminé avec les affaires financières. On passe maintenant aux affaires urbanisme. Monsieur Guénaud.
Délibération qui porte refus du transfert de compétences PLU à la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles. Les textes législatifs, et en particulier la loi Allure, prévoyaient le transfert de compétences aux communautés de communes et, pour ce qui est de Saint-Rémy, à la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles. Sauf qu'il est prévu législativement que les communes peuvent s'opposer. Il suffit qu'une minorité des communes s'oppose à ce transfert pour qu'il ne soit pas effectif. La procédure prévoyait que cette délibération ait lieu entre le 1er janvier 2017 et le 27 mars 2017, date du transfert. Je précise que cette opposition, votée à la fois par la communauté de communes, mais aussi par toutes les communes de la communauté de communes, doit être renouvelée en cas de changement de majorité ou de présidence de la communauté de communes. Voilà. Donc je demande de refuser le transfert automatique de la compétence PLU à la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles et de charger le maire de notifier cette délibération à monsieur le président de la communauté de communes CCVBA. Merci.
Merci. Bien, sur cette délibération. Alors, il y a, comment dire, Jacques a rappelé la loi, hein, on a d'ores et déjà plus de 25% des communes qui représentent plus de 20% des habitants qui ont délibéré. Donc, en fait, quel que soit... voilà, c'est fait. C'est fait. Mais bon, ceci dit, il faut quand même que chaque commune délibère. Je pense qu'on aura 10 communes sur 10 qui vont délibérer dans le même sens. Ben, pour le moment, toutes celles qui ont délibéré ont refusé. Et pour en avoir parlé en bureau avec l'ensemble des maires de la communauté de communes, je pense que les 10 communes vont délibérer dans le même sens. Voilà. Bien, donc sur cette proposition, qui est contre ? Non, mais j'ai pas vu. Je préserve votre vote. Donc, qui est contre ? Pas de contre. Abstention ? Unanimité. Comment ? Alors, les affaires de personnel, monsieur Fabergeau.
Bon, cette première délibération vise à corriger une petite anomalie qui s'était glissée dans la délibération de décembre dernier. Donc, en décembre dernier, on avait voté la création, le principe de la création de 6 postes. Il s'agit pour nous de réduire l'emploi précaire dans la collectivité et c'est destiné à stagiériser 6 agents qui sont dans la collectivité depuis au moins 2 ans. Et en fait, dans la délibération qui avait été proposée, on a un poste d'adjoint d'animation de deuxième classe à temps complet, alors que c'est un poste d'adjoint d'animation de première classe qu'il fallait créer. Donc, c'est ce qui vous est proposé ce soir, et ça substituera évidemment à ce qui était inscrit dans la délibération précédente. Sachant que vous étiez abstenu lors de la précédente délibération, j'imagine que vous allez faire de même. Même si nous, ça nous permettra donc de stagiériser différents agents.
Très bien. Pour voter, alors qui est contre cette proposition ? Abstention ? 8 abstentions, adopté. Ensuite.
C'est la continuité dans le refus de limiter la précarité, je vois. Bon, délibération suivante. Modification du tableau des effectifs suite à la réforme de la catégorie C. Donc là, on est dans une simplification administrative, je ne sais pas si c'est le mot. En fait, toujours est-il qu'il s'agit de revoir la grille d'échelons et de grades des catégories C que vous connaissez, qui est relativement complexe. Ça s'inscrit dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, le protocole de parcours professionnel, carrière, rémunération. Et même si l'intérêt il saute peut-être pas aux yeux, ça a quand même une vertu, c'est que ça permet d'harmoniser les différents grades de la filière de la fonction publique territoriale avec la fonction publique nationale et donc de favoriser les passerelles lorsque des agents souhaitent aller dans un sens ou dans l'autre. C'est un peu ça l'intérêt de cette nouvelle nomenclature et aussi accessoirement quand même de simplifier un peu une grille qui est particulièrement complexe. Donc je vais peut-être pas vous la lire. Sachez que dans l'absolu, ça change pas sur la fiche de paye des agents qui se retrouveront donc avec un autre intitulé en haut de leur fiche de paye en tant qu'adjoint ou au niveau du grade, mais que ni sur la rémunération ni sur le métier, ça changera fondamentalement.
Parfait. Sur cette modification du tableau des effectifs, Qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Ensuite.
Oui, mais là, c'est purement administratif, là. Tandis que la présente délibération, il y a l'enjeu du confort de travail de 6 agents.
Bon, alors la dernière. Eh, t'en as encore une ? Eh oui.
Ah bon, monsieur Fabergeon, on ne pouvait pas, pour une faute de frappe, changer notre vote. Voilà. Mais c'était juste une faute de frappe.
Je comprends. C'était le vote initial qui est discutable. Bien, la dernière, donc, que j'avais pas dans mes feuilles, recrutement sur liste d'attitude, remboursement des frais d'organisation du concours d'agents de maîtrise au CDG des Hautes-Alpes. Donc ça, c'est une délibération classique qu'on passe régulièrement lorsqu'un agent passe un concours dans un CDG voisin, en l'occurrence, c'était celui des Hautes-Alpes, qui réussit le concours et qu'il est nommé sur le poste pour lequel il a réussi le concours, la règle et la loi veut qu'on rembourse les frais du concours au CDG qui a validé la candidature et qui a organisé le concours. Donc c'est ce qui vous est proposé ce soir. Et le montant en jeu, c'est 770 euros. C'est plus cher que d'autres fois, oui.
Bien, sur ces frais d'organisation, qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Alors, un dossier important qui concerne les affaires scolaires, Monsieur Bonnet.
Oui, bonsoir. Donc, il s'agit de l'acquisition de classes mobiles numériques. C'est une délibération qui porte sur le plan numérique national, qui concerne cette année le collège Glanome, et qui va nous permettre, nous, municipalités, de demander une subvention à l'État pour des ordinateurs portables ou des tablettes avec clavier, donc les choix ne sont pas du tout encore effectués. Et ça tombe plutôt bien parce que il est assez urgent maintenant que nous puissions renouveler nos parcs informatiques dans les écoles, qui ont dans les écoles primaires 10 ans, un peu plus encore dans les maternelles, mais c'est peut-être moins sensible. Et donc on va profiter de ces classes mobiles pour renouveler le parc informatique qui sera donc entre autres dans une salle, mais qui pourra aussi se déplacer dans les classes en fonction des demandes des enseignants. Donc la somme, l'enveloppe prévisionnelle est de 48 000 euros pour l'acquisition de classes mobiles numériques. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de solliciter une subvention de l'État de 24 000 euros, soit 50% du coût de l'opération, et d'autoriser le maire à signer tous les actes nécessaires. La délibération est un peu en amont de la clôture du dossier, mais ça va nous permettre en tout cas d'avancer sur les réflexions et les négociations, d'une part avec l'éducation nationale et d'autre part avec les directeurs des écoles, avec lesquels bien sûr on est en relation pour décider de la formule la plus pertinente.
Oui, Monsieur Bonnet, donc vous répondez en partie à ce que j'allais vous demander, parce que ces classes nomades, elles existent quand même depuis pratiquement 10 ans. Donc je me demandais finalement si le corps enseignant était partie prenante de ce changement. Donc qui dit équipe dit aussi chef d'établissement, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu une concertation avec les chefs d'établissement pour connaître leur point de vue, à savoir est-ce qu'elles préféraient une classe informatique vraiment ou une classe nomade qui quand même a le désavantage en quelque part de demander quelque peu de manipulation. Et puis, et pour finir, malgré tout, au niveau pédagogique, il y a un changement de façon de travail et de méthode de travail. Quand on est en classe nomade, comme ça, on ne travaille pas de la même manière que lorsque c'est une classe informatique. Un moment d'informatique ne correspond pas à une classe nomade. Enfin, c'est différent, vous savez. Donc je me demandais si les équipes pédagogiques étaient quand même très se sentaient concernées, étaient plutôt d'accord. Et après, la deuxième question étant, est-ce qu'il y avait une formation de base, est-ce qu'il y avait un accompagnement durant la mise en place de ce nouveau travail? Et voilà, donc beaucoup de questions, à savoir combien il y avait de classes concernées, combien d'écoles, combien de postes, enfin de tablettes ou de... voilà. Il y a beaucoup de questions. Vous dites que c'est un dossier important, monsieur le maire. Je suis entièrement d'accord avec vous, parce qu'on est dans un changement assez radical de méthode dans ce qui touche les TICE et voilà.
Alors, on n'a pas défini aujourd'hui précisément la formule qui va être tenue. On peut imaginer, par exemple, que ces classes nomades soient installées à la place des ordinateurs actuels de la salle informatique et que, en fonction des besoins des enseignants, ces ordinateurs ou ces tablettes avec clavier puissent bouger dans une classe ou une autre à raison de 6, donc c'est à peu près 6 ordinateurs par classe mobile. Donc vous voyez, si on veut en avoir pour un demi-groupe, considérant aujourd'hui qu'on a 24 élèves et que souvent les enseignants peuvent travailler par demi-groupe sur ces questions-là, ça représenterait environ 12 portables par exemple dans une classe lorsque les enseignants veulent travailler avec ces classes mobiles numériques. Si on a l'enveloppe totale telle qu'on l'espère, on pourra peut-être même faire les deux, c'est-à-dire que avoir un équipement qui soit dans la salle informatique et une petite partie qui puisse bouger en totalité ou en partie. Donc aujourd'hui, en fait, la formule n'est pas arrêtée parce que la concertation n'a fait que démarrer avec les enseignants. Ce que je peux vous dire par rapport à leur changement de méthode, c'est pas tant les. Enfin, c'est vrai qu'une tablette, ça peut provoquer un certain nombre de changements. Il y a eu déjà des changements importants dans les classes. Donc, on a 2 classes par école élémentaire qui aujourd'hui sont dotées de tableaux numériques interactifs.
C'est un peu différent.
On n'en a pas davantage, mais donc c'est pour parler simplement équipement informatique, parce qu'on n'a que 2 enseignants aujourd'hui par établissement qui étaient volontaires, et il ne s'agit pas de faire ce type d'équipement sans qu'il y ait des enseignants qui s'investissent et qui se forment, comme vous disiez tout à l'heure, parce qu'effectivement, la problématique dans ces cas-là, c'est la formation des enseignants, il faut qu'elles suivent, donc il faut des enseignants qui sont prêts à se former sur ces nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, ça évolue chaque année, on a des nouveaux enseignants qui arrivent, il y a des nouvelles demandes. Donc je pense que l'utilisation ou non de ces classes nomades, comme vous dites, de ces équipements nomades, évolue aussi aujourd'hui, et évolue d'année en année. Donc on a des enseignants qui vont peu l'utiliser, d'autres qui vont être davantage demandeurs. Donc on va faire le point avec eux, ils savent qu'on a cette opportunité. Dans tous les cas, il faut qu'on renouvelle absolument l'équipement informatique, puisqu'on a des logiciels qui aujourd'hui ne tournent plus sur des ordinateurs qui ont une dizaine d'années. Donc on est acculé un petit peu aussi par ces évolutions technologiques. Et on profite de ce plan numérique pour renouveler de manière plus importante. On vous tiendra au courant.
Voilà, j'aimerais bien être au courant par la suite, parce que c'est vrai que c'est quand même important comme changement quand même, je pense, parce que jusqu'à présent, il était, à mon sens, plus facile de déplacer des élèves, surtout en demi-groupe, que de déplacer du matériel. Bon, c'est vrai qu'il y a tous les chariots, il y a tous les wifi, enfin, il faut être sûr que... Voilà, qu'on va avoir de bons réseaux, qu'on va avoir...
Imaginons qu'on ait 16 ordinateurs portables, ils seront dans la salle informatique de manière
fixe,
entre guillemets, puisqu'ils sont portables,
puisque c'est une classe
mobile. Ils pourront éventuellement être empruntés en partie ou en totalité, suivant les besoins des enseignants au coup par coup. Donc, je veux dire, les deux sont tout à fait compatibles, les deux usages sont tout à fait compatibles.
Ouais. D'accord. Non, mais c'est surtout au niveau des équipes pédagogiques qui, quelquefois, ont un peu de mal à accepter, malgré tout, des changements. Mais je suis intéressée, oui, pour connaître la suite. Merci. Et le conseil départemental ne va pas freiner un petit peu du fait que ça concerne des classes primaires alors que le dispositif est fait essentiellement pour les collèges?
Il s'agit d'une dotation d'État qui est prévue par l'éducation nationale. L'idée du plan numérique, c'est qu'il n'y ait pas de rupture entre l'élémentaire et le collège.
Donc,
quand un collège est équipé, ils équipent aussi les écoles. D'accord. Donc il ne s'agit pas du département, effectivement.
Merci.
Bien, je crois qu'on n'a pas voté, on n'a pas délibéré sur ces acquisitions de classes mobiles numériques. Alors, qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Très bien, on en a terminé avec l'ordre du jour. On passe maintenant aux questions diverses. On vous écoute.
Donc, les questions portent essentiellement sur l'urbanisme. Donc, pour la zone des cèdres, des sondages du sol ont été réalisés sur ces parcelles en novembre. Quelles en étaient la nature et avez-vous quelques résultats à nous communiquer, s'il vous plaît?
Oui, alors, j'ai sous les yeux... Je vais vous le faire passer, d'ailleurs, si vous voulez.
Oui.
J'ai sous les yeux le mail de M. Laurent Fournier, ceux qui siègent à la commission des cèdres le connaissent, donc c'est le représentant de l'EPFR, hein, c'est le chargé de mission de l'EPFR. Parce que je vous rappelle que c'est l'EPFR qui a commandé ces sondages de sol, d'accord ? Donc nous, l'étude, on l'a pas, c'est l'EPFR qui l'a faite. Mais par contre, on l'a interrogé, quand on a pris connaissance de votre question, on l'a interrogé. Alors je vous le lis, puis je vous donne. Donc objet, résultat, sondage géologique pour mardi, parce qu'on a indiqué qu'il nous fallait la réponse pour mardi. Bonjour, concernant l'étude géotechnique commandée par l'EPF PACA sur le site des Cèdres, les résultats indiquent que, deux points, l'ensemble du site présente des sols homogènes composés de roches, d'argile, de remblai et d'eau. Le site est tout à fait compatible avec une opération d'aménagement incluant la construction de bâtiments, entre parenthèses maisons et immeubles. Ensuite, pour l'implantation future des bâtiments et sous-sols éventuels de parking, entre parenthèses emplacement non déterminé à ce jour, je referme la parenthèse, l'aménagement du site s'adaptera aux composantes du sol et prévoira les fondations nécessaires. Et enfin, lorsque le plan de masse du projet sera plus avancé, des études de sol complémentaires permettront de déterminer le type de fondation nécessaire à chaque bâtiment en superstructure ou infrastructure. Bien cordialement, Laurent Fournier. Voilà.
Je veux bien, merci. Merci. Bien, donc on peut passer à la deuxième question, puisque vous avez donné réponse. Lors de la dernière commission extra-municipale, Monsieur Guénaud a fait part du lancement en janvier 2017 de deux études complémentaires, l'une sur le stationnement et l'autre sur la circulation. Ces études sont-elles lancées? Quand pourrons-nous en connaître les conclusions?
Alors, c'est pas deux, c'est une qui regroupe les deux, mais bon, peu importe. Voilà, c'est une avec les deux choses. Donc, Jacques Guénaud, il a parlé de lancement en début d'année donc, d'une étude globale sur circulation et stationnement, avec un zoom, évidemment, sur le secteur des Cèdres, puisque ça a été débattu donc en commission des Cèdres. Donc, le cahier des charges de cette étude est en cours d'élaboration. Je vous rappelle que notre directrice d'urbanisme a été absente pendant tout le mois de janvier, qui nous a pas fait gagner du temps sur un certain nombre de dossiers, mais bon, c'est comme ça. Bon, là, elle est revenue et elle est à fond sur ses dossiers. Donc, le cahier des charges est en cours d'élaboration. Après, le parcours du combattant habituel, hein, consultation, marché, réalisation de l'étude, etc., on vise une restitution à la rentrée. Et la restitution, évidemment, sera présentée à la commission des Cèdres. Donc, vous en prendrez connaissance dans ce cadre-là, puisque je vous le rappelle, ça a été demandé dans le cadre de cette commission.
Septembre, bien sûr.
Oui.
Hein? Merci.
Oui. À la rentrée de septembre. Voilà. Oui.
Merci pour vos réponses. Merci.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses ou d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Merci à tous. La séance est levée.